Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour, nous consacrerons en grande partie ce Univox à l'action non violente COP21, un mouvement qui a pour objectif une riposte non violente, déterminée, radicale et populaire pour le climat, selon cette action. Ils veulent dénoncer les projets climatiques et surtout agir pour le climat dans cette situation qui devient urgente. On va apprendre à connaître leurs actions plus en détail au niveau local, à Mulhouse et dans tout le sud de l'Alsace avec Perrine Prével et Mickaël Horn, les invités de cette émission. L'interview a été enregistrée par les étudiants de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Du coup, cette semaine, c'est bien Radio MNE, la Radio Campus Mulhousienne qui réalise cette émission. Univox, c'est parti.
Univox.
Mais avant d'entendre nos invités pour l'interview, on va faire un petit tour à vélo et à pied. Est-ce qu'on peut rendre Mulhouse une ville 100% piétonne? Un micro-trottoir de Xavier Richert.
Eh oui, tout change. Tout change et il va falloir épeler sur un autre ton le patronyme de cette célèbre artère. Si pendant l'occupation, la rue du Sauvage est devenue tout naturellement la rue Adolf Hitler, et si plus tard, la sauvagerie des chauffards continuera de lui donner tout son sens, il faudra désormais réfléchir en ce lieu paisible à ce qui lui reste de primitif. Et d'abord, répondre à cette question. L'espace piétonnier, est-ce la vie qui s'en va ou est-ce la vie qui revient ?
Que penseriez-vous, monsieur, si Mulhouse interdisait l'accès total au centre-ville des voitures, donc laisser la ville 100% piétonne et vélo?
Ce serait quelque chose de possible, mais il faudrait quand même laisser aménager de manière à pouvoir circuler quand même raisonnablement. Parce que, comme dit, le vrai problème, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de marcher quand ils font les courses. C'est ça le problème. Heureusement qu'il y a le tram d'ailleurs, parce que c'est une galère pour circuler à Mulhouse.
Ce serait une bonne chose, mais ce serait compliqué.
Ça serait difficile.
Déjà, moi j'ai pas de véhicule, et puis je pense que ce serait très difficile, quoi, surtout pour les commerçants. Quoi, hein.
Alors madame, que pensez-vous si la ville de Mulhouse interdisait l'accès aux véhicules dans tout le centre-ville? Vous en penseriez quoi?
Pas beaucoup de bien.
Ce serait ravi. Comme j'ai pas de voiture, ça m'est égal.
Je pense que c'est difficile de faire ça. Moi, personnellement, comme je ne roule plus, je dirais oui.
Que penseriez-vous si Mulhouse interdisait l'accès total aux voitures au centre-ville?
Ce serait une très bonne chose. Ce serait excellent. Je pense qu'il faudrait que les gens prennent de plus en plus les transports en commun. Il y a un parking à l'extérieur de Mulhouse, près du camping, près de l'université, oui. On a accès au tram. Et on peut voyager dans tout Mulhouse pour 20 euros par jour, pour 2 euros pardon, par jour, avec le parking compris dans ce prix. Je pense que les gens devraient devenir un peu plus raisonnables et ne pas aller avec leur voiture partout.
Que du bien, franchement que du bien, vraiment. On souffre de la pollution, hein. Moi particulièrement aussi, tout à fait d'accord.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Place à l'interview avec Perrine Prével et Mickaël Horn de l'action non violente COP21, celle de Mulhouse et le sud de l'Alsace, interviewée par Victor Emmanuel Huss et Grégoire Lévy.
Univox.
Bonjour à Perrine et Mickaël. Est-ce que vous pourriez présenter le collectif ANV, Action non violente?
Alors, ANV COP21, c'est un collectif national qui est étendu sur toute la France, avec à peu près 60 groupes dans toute la France. Nous, à Mulhouse, on s'est développé en septembre 2018. En fait, on est organisé donc nationalement. Donc, il y a vraiment des actions qui sont déployées nationalement. Par exemple, celle du décrocheur de portrait. Mais il y en a enfin voilà, on a fait la Société Générale, contre l'huile de palme. C'est vraiment, on prend une cible, un message, et on le déploie sur toute la France de manière à ce qu'il y ait un maximum de retours communication et de pression dans toutes les régions pour avoir du poids après au niveau politique, faire entrer ces débats dans la politique du jour.
Le mouvement, en fait, a été fondé en 2015, au moment de la COP21. C'est là qu'il tire son nom, Action non-violente COP21. Parce que c'était un moment particulier. On avait une conférence décisive, en tout cas, sur le sol français. Et en même temps, on a eu en même temps les attentats, ce qui a été très compliqué. Donc ça a été la grande question. Les préfets voulaient qu'il se passe absolument rien, qu'il n'y ait aucune opposition qui s'exprime lors des COP, de cette COP-là. Et là, il y a un groupe de citoyens justement qui se sont dit « Non, on va pas, c'est trop important le climat. Ok, les attentats, ça nous a tous touchés, mais ce qui se passe là va être décisif. Cette conférence de Paris, on va encore en parler, on en parle encore aujourd'hui. elle a pas le même impact, en tout cas un impact plus fort que d'autres conférences. Donc il faut qu'on organise des rassemblements. Et c'est là qu'a commencé du coup Action non-violente COP21, à organiser des rassemblements qui, eux, étaient interdits par la préfecture et qui sont très bien passés et qui ont quand même permis de mettre sur la table que les engagements pris à la COP21 n'étaient pas suffisants. Ils ne permettaient pas de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'on a déjà dépassé ce stade-là. Et donc, ça a été le démarrage de ce mouvement-là qui s'est dit, notre force, ça va être d'être un réseau, comme Perrine l'a dit, décentralisé. Chaque ville s'organise comme elle veut et ensuite on fait appel à la force de ce réseau pour pouvoir organiser des actions d'envergure nationale.
Dans l'Alsace du 3 mars paraissait un article d'Alain Cheval sur le jugement aujourd'hui de vos collègues pour les actions de décrochage des portraits officiels du chef de l'État et les actions autour de Stockamine à Wittelsheim. Nous reviendrons plus en détail sur ces deux points. Envisagez-vous d'autres actions moins coûteuses financièrement ou symboliquement en capital militant pour attirer la vision de l'environnement?
Oui, des actions, on en a plein sous le coude et des projets, il y en a plein en fait. Je sais qu'il y a Amazon qui est en voie de construction près de Strasbourg. On a toujours Stockamine qui est notre problème principal.
Mais pour moi, ça ne se construit pas en termes de coûts ou de moyens, quoi. Si on monte une stratégie, on choisit des actions qu'on trouve pertinentes à un moment donné face à une urgence. Quelque part, nous, on est que en train de réagir face à des urgences. Voilà, c'est ce que nous disent les scientifiques à longueur de journée, c'est qu'il y a une urgence à agir. Donc, quand on s'est lancé dans la campagne des décrochages, on n'a pas du tout anticipé qu'il allait avoir un procès, qu'il allait falloir lever des fonds pour ça. Et derrière, ça a suivi parce que on a des gens qui nous soutiennent, monsieur et madame tout le monde, qui est là pour nous soutenir. Et c'est ce qu'on veut, quoi. C'est pour ça qu'on est un mouvement de masse, on grandit aussi et chacun s'implique. C'est sûr que tout le monde n'ira pas décrocher un portrait dans une mairie demain matin. Par contre, chacun peut s'impliquer à sa façon, en faisant de la cuisine, en faisant juste un petit don. Il y a plein de façons de s'impliquer dans le mouvement pour défendre cette urgence climatique, quoi.
Pourquoi avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron?
L'idée, elle est simple. C'est on a un gouvernement qui fait beaucoup de discours, mais qui ne fait rien sur... Enfin, rien. Ou du moins, qui n'est pas à la hauteur, en tout cas, de l'engagement climat, des engagements qu'ils ont pris, notamment des engagements de la COP21. Et donc l'idée, c'est de rappeler au président qu'il est en train de décrocher. Il décroche clairement de la trajectoire qu'on s'est fixée. C'est pas nous qui le disons, c'est la communauté scientifique, c'est le Haut Conseil pour le climat qu'il a lui-même mis en place, qui dresse un bilan très critique de ce qui est en place. Donc on ne se respecte pas nos propres engagements. Le président décroche, nous on le décroche des murs des mairies, quoi. Il n'a plus sa place.
À savoir que c'est tombé à un moment où il y a quand même 2 millions de Français qui ont signé l'affaire du siècle. Et l'État a répondu non, mais c'est bien ce qu'on fait, c'est bien ce que vous faites, mais c'est bien aussi ce qu'on fait, on va continuer comme ça. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on réagisse, et ça s'est trouvé stratégiquement une idée qui collait de décrocher le portrait d'Emmanuel Macron, puisqu'il décrochait des accords de Paris.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu l'affaire du siècle qui est cette pétition qui visait du coup à soutenir un recours en justice contre l'État justement pour défaillance en matière climatique. Et donc justement, on a essayé d'autres modes d'action. Il y a eu la pétition, il y a eu les rendez-vous avec les Oxfam, Greenpeace, notre affaire à tous ont été reçus donc du coup par le gouvernement. Voilà, il y a eu d'autres types d'actions. À un moment, quand ça porte plus ses fruits, on passe à un cran supérieur, on désobéit et on décroche les portraits.
Mais alors l'écologie, c'est pas nouveau. Emmanuel Macron, oui, c'est actuel, mais avant... François Hollande non plus, la question écologique, c'était pas trop son truc. Pourquoi ne pas avoir fait des actions comme ça, coup de poing, choc, pendant son quinquennat?
Je dirais qu'on était dans un autre état d'esprit, je trouve. On était encore dans l'état d'esprit, on va construire des alternatives, chacun va faire son petit geste, le colibri, quoi. Chacun va prendre un peu le vélo, trier ses déchets, et puis ça va aller, quoi. Et c'est le dernier rapport du GIEC qui est sorti, qui a dit que les gars, les gestes individuels ne suffiront pas Ça sera qu'un quart en fait de ce qu'il va falloir faire, et tout le reste ça va être des changements systémiques, des changements collectifs. Il va falloir vraiment contraindre les choses, quoi. On pouvait chacun porter son cabas au supermarché, mais le jour où ça a été interdit, les sacs plastiques, bah voilà, on a vraiment un impact, voilà. Et donc il faut qu'on passe maintenant sur des gestes collectifs, et c'est ça, c'est ce rapport du GIEC qui est venu dire voilà, le virage il est à 180 degrés, on n'a pas 60 ans, on n'a pas le temps de convaincre les générations qui sont en train de grandir, il faut agir aujourd'hui et maintenant. Donc le sentiment d'urgence pour moi est beaucoup plus fort aujourd'hui que pendant le mandat de François Hollande. En tout cas moi je le perçois comme ça, mais on était dans l'erreur à l'époque.
Pourtant Emmanuel Macron et son gouvernement ont mis quelques mesures en place. Alors beaucoup parlent de mesurettes, de choses qui ne servent à rien, mais il y a deux semaines on apprenait que le ministre de l'économie Bruno Le Maire avec d'autres ministres avait décidé d'interdire tout forage ou nouveau forage, de ne pas renouveler aussi les contrats pour des forages déjà en cours outre-mer. C'est des actions fortes quand même. Ça a un impact économique assez fort sur des entreprises comme Total, qui sont des entreprises importantes pour l'économie française. Donc ils mettent quand même en place des mesures, non ?
Pour ce cas-là, je ne sais pas précisément, mais en tout cas, quand on voit qu'il autorise Total, enfin, il trouve tous les moyens pour autoriser Total à faire du biocarburant. À Marseille, à la MED, ouais. C'est quand même participer à la déforestation, à tuer le poumon de la planète et donc à contribuer aux émissions de gaz, des émissions de CO2 de manière considérable. Donc, je pense qu'en fait, ce qui s'est dit, je ne sais plus, c'était à Bayonne lors du G7, on ne peut pas être à la fois pompier et pyromane en fait.
Perry Prével et Mickaël Horn restent avec nous juste après cette pause musicale.
Étrangère à moi-même, mes silences font trop de bruit. Matin, mon cœur balance entre le jack et l'eau de vie. J'annonce des turbulences en provenance de mon esprit. N'appelle pas l'ambulance, en vrai j'ai juste besoin d'un psy. Dans les couloirs j'y vais, je ne trouve pas ma calme. V'là le temps qui m'assaille, j'ai la nausée, je rends l'âme. Migraine des lendemains, foule quand ici ce n'est plus la fête. Mes mots sont des menottes, mes souvenirs la camisole. Cloîtré comme dans une grotte, est-ce que c'est ça devenir folle? Un enfer récurrent, dans mon corps défaillant. Je recherche un pansement, mon spleen omniprésent.
Univox. Perrine Prével et Mickaël Horn de l'action non violente comme va tient Mulhouse Sud Alsace sont toujours nos invités.
Revenons, si vous le voulez bien, à Stocamine. Alors je vais vous rappeler ce que c'est. C'est un enfouissement de déchets.
Stockage.
Oui, stockage, effectivement. Oui.
Pour l'instant.
À Wittelsheim, donc dans le sud de Mulhouse, sur l'ancienne mine de potasse qui a été fermée en 91, on a mis 40 000 tonnes de déchets toxiques, arsenic, cyanure et métaux lourds. Le problème, il y a eu un incendie en 2012, la mine bouge, le puits Joseph s'effondre, ce qui nous avait déjà alerté à l'époque, et au-dessus se trouve la plus grande nappe phréatique d'Europe qui fournit l'eau de Mulhouse à Francfort, c'est environ 35 milliards de mètres cubes. Quelles sont les actions aujourd'hui pour que cette mine soit visible partout? Parce qu'on a préparé l'émission, mais on n'avait jamais entendu parler de Stocamine.
Presque. Qu'est-ce que vous proposez comme action particulière pour donner de la visibilité à ce problème-là?
Ben, c'est notre cheval de bataille. C'est vrai que Stockamine, c'est un sujet qui a duré. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils se battent et qui se battent localement, en fait, et peut-être aussi qui s'épuisent. Et donc, du coup, nous, on a essayé de les épauler. Et il y a plein d'autres aussi, avec tous ces événements qui se sont passés depuis quelques temps. Il y a d'autres collectifs, même au niveau de Strasbourg, qui se sont greffés. Et ça nous permet de gagner en visibilité sur ce sujet et de faire parler ce sujet qui n'a pas toujours eu la portée qu'il devrait avoir. Mais clairement, on est toujours à vide d'idées et de personnes qui sont motivées pour déployer des actions ici et là. Plus on en parlera, en fait, plus il y aura de la visibilité. En fait, on a incité beaucoup de gens à mettre des banderoles au niveau des fenêtres, des balcons, de leur appartement, de leur maison, de leur jardin. Une autre idée aussi, c'était quand il y avait le marché de Noël, de venir avec des petites coiffes. Mais ça peut être aussi des graphes partout en précisant que notre eau est en danger de Alsace à Francfort et de manière à ce que ce soit visible puisque les graphes c'est durable, nous on peut afficher mais ça va pas durer, donc on incite tout le monde à prendre ce sujet en main et à communiquer dessus à sa manière, faut pas hésiter, faut pas attendre que un collectif décide, tiens on vous propose ça, tout le monde est acteur et tout le monde dans toute l'Alsace, en fait. Tout le monde doit s'emparer de ce sujet, quoi.
Donc, vous comptez, si j'ai bien compris, sur une pression de l'opinion publique, parce que vous proposez pas de solution alternative à ce que propose, par exemple, l'État.
Alors, nous, on est sur un temps collectif de mobilisation. Nous, on va se mobiliser et agir là-dessus. Ensuite, historiquement, il y a le collectif des Stockamines, qui est un collectif qui s'est formé dès l'installation des déchets dans la mine et qui, eux, ont réfléchi justement aux solutions alternatives, le stockage en surface, l'envoi de certains déchets ultimes en Allemagne où il y a des sites de stockage qui fonctionnent depuis plusieurs années sans problème. Voilà. Les solutions ont été déployées. Après, nous, on est plus là à venir en appui du collectif existant des Stockamines qui a fait déjà un gros boulot, mais plutôt vers une certaine génération. Et aujourd'hui, d'essayer de faire passer le message plus sur les réseaux sociaux, plus dans les médias, ce qui se faisait peut-être moins avant, pour toucher une nouvelle génération. Nous, on est quelque part, on n'est pas les anciens qui avons connu les mineurs et tout. Donc, si vous allez discuter dans la rue, on l'a fait lors du marché de Noël. La plupart des gens, à partir de 55 ans, ils savent ce que c'est Stockamine. En fait, c'est juste les tranches d'âge en dessous. Donc, en fait, il n'y a pas eu de transmission de cette mémoire-là, ce qui pose aussi question, puisque le gouvernement dit « on va enfuir les déchets, mais vous inquiétez pas, ça va être sécurisé et tout ». Si en une génération, il y a une information comme ça qui se perd, c'est un peu la même question pour les déchets nucléaires qu'on va vouloir enfuir, quoi. C'est comment on transmet le message sur des siècles et des siècles, comme quoi, attention, là, il faut éviter de creuser, parce que...
Et surtout que la problématique, c'est que c'est irréversible. Hein. Donc, une fois qu'ils sont enfouis, personne ne pourra retourner les chercher pour les traiter ou pour essayer de les démélanger de la nappe phréatique. Donc, ça veut dire que c'est foutu, en fait. Hein. C'est vraiment une décision, là, qui est prise. Et...
Est-ce que c'est pas déjà, pour prendre vos mots, foutu? Non. Parce qu'il y a, dans un reportage qui avait été diffusé sur France 5, et on voyait qu'une partie des déchets n'était même plus sortable. Il n'était plus possible de les sortir à cause de la pression exercée par l'effondrement, etc. Et que seulement une partie pouvait être sortie. Et donc, concernant les déchets qui ne peuvent plus être sortis, comment on fait ?
Alors déjà, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un espèce d'ultimatum, c'est qu'on sait que le préfet, d'ici la fin de l'année, pourrait prendre la décision d'enfuir les déchets, ce qui crée l'urgence, du coup, nous on est nouveau là, dans une situation d'urgence, c'est pour ça qu'on invite tout le monde à s'emparer du sujet et à agir. Après, sur la question des déchets, tous les déchets peuvent être sortis. C'est techniquement possible, après ça a un coût. La question, elle est juste là, en fait. C'est-à-dire qu'on sait, on a des techniques d'extraction aujourd'hui, on sait aller repercer des galeries, on sait aller installer des étais, des choses comme ça, on sait envoyer des robots. L'idéal, c'est les secteurs les plus dangereux, il faut que ce soit des robots qui sortent les déchets, pas des êtres humains. Effectivement, vous n'envoyez pas un salarié sur un plafond qui est en train de s'effondrer. Donc, quand les MDPA, les mines de potasse, répondent que c'est impossible, si c'est impossible, non, il y a une possibilité, mais effectivement, elle est plus technique, elle demande plus d'argent, mais c'est possible.
Mais alors, ces déchets, on les sort, mais on les met où? On les envoie où?
Parce que
c'est un peu repousser le problème.
Là où ils vont actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Stockamine ne reçoit plus de déchets depuis bientôt 10 ans. Tous nos déchets d'incinération, tous nos déchets ultimes, on continue à en avoir en France. On ne s'est pas arrêté de produire des déchets, on n'est pas devenu propre du jour au lendemain. Donc il y a des filières qui existent aujourd'hui. Donc c'est juste que ces déchets, ils aillent regagner ces filières-là. Il y a une partie, c'est du stockage en surface. On sait qu'il y a une partie qui est envoyée en Allemagne. Donc ça, il faudra apprendre à s'en passer aussi. qu'on soit tous capables de stocker nos déchets en surface. C'est la meilleure façon de pouvoir y accéder après, de pouvoir les retraiter s'il y a de nouvelles technologies plus performantes qui arrivent par la suite. Il faut qu'on garde accès à ces déchets-là, quoi.
Nous, notre problématique, c'est que c'est juste au-dessus de la plus grande nappe phréatique d'Europe. Ça a nourri 7 millions d'habitants de Mulhouse à Francfort, et c'est irréversible. Donc, franchement, je pense qu'il y a d'autres endroits où on peut le mettre en Europe. Et deuxièmement, quand on veut, on peut. On a réussi à aller marcher sur la Lune, à y aller, ouais, à marcher et à revenir. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas me dire que vous n'arrivez pas à ressortir ces déchets de sous cette mine, quoi. On a réussi à les poser.
Bah oui, et puis c'est vrai que la ressource en eau, il faut absolument la préserver. C'est un bien qu'on partage tous. Une fois que c'est pollué, c'est très compliqué. Il y a eu le cas à Kingersheim l'année dernière, du coup, où le château d'eau, au niveau du château d'eau, il y a une détection d'un pesticide qui était interdit depuis 20 ans, donc qui a été détecté seulement maintenant dans l'eau potable. Donc Kingersheim n'a plus utilisé son propre puits de captage et a dû se raccorder en urgence à Mulhouse pour fournir l'eau des habitants. Donc on peut continuer à polluer pendant longtemps comme ça, mais à un moment, en reportant le problème sur d'autres puits de captage, à un moment, bah, voilà, le jour où on n'aura plus d'eau au robinet s'approche, quoi.
Alors Kingersheim, c'est le nord de Mulhouse.
Et, oui. Et c'est 13 000 habitants, c'est pas rien, quoi. Ouais. C'est pas...
L'eau de Mulhouse, c'est une autre source qui
vient de la Dolère, elle, oui. On a cette chance-là, mais elle n'est pas illimitée. Le barrage est souvent à sec, voilà. Donc il y a un projet de construction d'un deuxième barrage. Donc on cherche toujours à repousser les échéances pour régler les problèmes, donc... Oui, préservons l'eau, ce sera plus simple.
Une des solutions, c'est aussi de moins produire, comme ça on produirait moins de déchets et de moins consommer d'eau, comme ça on aurait moins besoin de créer un deuxième barrage. Et plus on va polluer, plus avec l'urgence climatique, les réchauffements et les problèmes aussi sismiques, plus il y a de chances que notre eau, eh ben, ça, elle devienne vraiment, comment dire...
Impropre.
Rare. Très rare.
Mais rare, oui.
On sera vraiment, enfin, on risque d'être dans des situations de pénurie d'eau impressionnantes, quoi. Et c'est là-dessus qu'on veut alerter. Et d'ailleurs, c'est là-dessus où on est assez surpris que le préfet ne prenne aucune décision quand il y a des pénuries de, enfin, des sécheresses en Alsace. Ça fait plusieurs années qu'il y a des sécheresses où le préfet devrait prendre des décisions de réduire et de restreindre les gens. Et il ne fait pas. Et par contre, on va travailler à développer un nouveau barrage qui ne va pas nous amener l'eau, en fait, le barrage, hein, clairement.
Bah, s'il fait sec, il ne se remplit pas le barrage. Ça, c'est le, c'est le grand problème. Il y a un comité sécheresse qui se réunit à la préfecture depuis 4 ans maintenant. Il n'a pas décidé grand-chose, pas à mon avis, mais il se réunit, en tout cas. Donc, ils sont conscients qu'il y a un vrai problème hydrique. Voilà, à Mulhouse, on est passé à 3 semaines l'année dernière d'une pénurie d'eau. Vous allez revoir le conseil municipal de décembre 2019 et vous verrez qu'ils en parlent justement en disant que s'il ne pleut pas, il se peut que la ville de Mulhouse soit coupée d'eau sous 3 semaines. C'était une des préoccupations du conseil municipal. Donc voilà, on n'a pas trop parlé parce que ça ne s'est pas produit finalement. Voilà, mais moi je crains le jour où effectivement on n'a plus d'eau au robinet, quoi.
Et j'ajouterais un truc. Il y a une campagne qui est en cours, Alternative Territoriale, qui travaille sur le pacte pour la transition. Donc, faire connaître aux élus les solutions, les mesures qu'on peut mettre en place localement. Il y a 32 mesures. Et par rapport à ça, ils ont fait circuler un sondage pour savoir quelles sont les priorités dans ces 32 mesures pour les habitants de la M2A. La numéro 1, c'est...
M2A, c'est l'agglomération mulhousienne.
Voilà. La numéro 1 qui est ressortie, c'est garantir durable, un accès durable à l'eau ici en M2A. C'est la numéro 1. Les gens, on voit bien, sont inquiets. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le préfet, lui, ben voilà, ils font des réunions et personne ne prend de décision, quoi. L'opinion publique n'est pas au courant de l'urgence par rapport à l'eau, mais par contre ils sont super inquiets, donc c'est quand même, imaginez s'ils savaient tout.
Au niveau par exemple de Mulhouse, d'une ville comme Mulhouse ou encore plus petit, est-ce que vous proposez prochainement des actions?
Bah, clairement on a une action sur Stockamine là, pour alerter les élus et les candidats par rapport à l'affaire Stockamine, parce qu'il y a une mobilisation des habitants. Mais on ne se trouve pas du tout soutenu par les élus qui ont pu être élus. Et les futurs candidats, on aimerait savoir comment ils se positionnent là-dessus, parce que clairement, on a besoin d'eux, en fait. Certes, on va devoir se mobiliser, nous tous, habitants et citoyens, mais on a besoin d'être épaulés par les élus. Ils ont un rôle à jouer, ils ont des responsabilités et ils doivent pousser ce projet au niveau national, quoi.
Oui, ils vont changer. C'est encore les municipales bientôt. Mmh. Peut-être que les nouveaux... Ce sera vraiment une priorité pour eux, l'écologie.
Bah c'est...
Qui sait, l'avenir nous le dira.
Ça, là, c'est l'occasion en tout cas d'interpeller, de solliciter, d'en parler autour de soi si vous croisez des candidats, de leur dire voilà, je suis prêt à voter pour vous, mais voilà.
écologie et
sécurité. Pour vous, y a-t-il un candidat, par exemple à Mulhouse, qui se démarque d'un point de vue écologique? Parce qu'on a par exemple un candidat écolo, mais est-ce que pour vous, il est vraiment écolo comme candidat? Est-ce qu'il y en a un qui se démarque plus qu'un autre par ses propositions?
Alors nous, dans notre collectif, on est apartisan, donc on ne prendra pas position pour une liste ou une autre.
Mais voilà, il s'agit pas après, de prendre position, il s'agit de donner un avis sur une thématique qui est l'écologie.
Après, c'est intéressant de remarquer que tous les candidats ont mis des mesures assez fortes en matière d'écologie dans leur programme. Voilà, tous parlent de créer des pistes cyclables et des kilomètres, de planter des tas d'arbres. Voilà. Donc on a des mesures qui apparaissent et c'est assez intéressant de voir que là, toutes les listes se sont emparées de ce sujet. Ça, c'est déjà une grande victoire. Que ça devienne, voilà, c'est ce que voulait Europe Écologie Les Verts à sa création, c'est que ce soit pas un parti dédié à cette question-là, mais que ça soit transversal, qu'on le retrouve dans tous les programmes des partis politiques. Après, au niveau du pacte, je sais pas, toutes les listes ne se sont pas présentées pour signer le pacte pour l'instant, donc on n'arrive pas encore à comparer. Et c'est ça, ça va être la mesure qu'on pourra donner, c'est ça. Il y a 32 mesures du pacte. Qui s'est engagé pour quelle des 32 mesures? On pourra publier un tableau en fonction des listes. Mais là, tout le monde n'est pas venu au pacte, si j'ai suivi.
En fait, tous parlent de l'écologie, c'est sûr, mais quand on lit les programmes, on comprend que tous n'ont pas compris ce que c'était que la transition écologique, en fait. Et il y en a, ils parlent de transition écologique, mais clairement, le volet environnement, en fait, la transition, ça veut dire, c'est vraiment prendre le problème dans son intégralité, en fait. Sur tous les sujets, on doit travailler, avancer et intégrer cette notion. Alors que certains, on voit dans le programme où ça apparaît comme... chacun de nos projets prendront en compte la notion environnementale. C'est pas vraiment ça, c'est l'environnement, enfin la transition écologique, comment la vit à Mulhouse en fait. C'est comment l'intègre et comment la transforme quoi.
Où est-ce qu'on peut retrouver vos actions? Par internet, par Facebook? Est-ce que vous avez des sites
Localement, on est plus sur Facebook. Clairement, on n'a pas de site pour l'action locale. Mais nationalement, pour tout ce qui est action nationale, enfin campagne nationale, elles sont sur le site Décrochons... ANV-COP21.org pour tout ce qui est national. Après, pour la campagne Décrochons Macron, il y a vraiment un site qui s'appelle DécrochonsMacron.com.
Merci. Un dernier mot encore?
Non, mais si ceux qui veulent nous rejoindre, soyez les bienvenus. Comme dit, il y a plein de formes d'engagement. Ça peut être de faire de la cuisine, d'aller coller des affiches, de faire des actions plus engageantes si ça vous dit. Mais voilà, on n'est pas une bande d'extrémistes en tout cas. On est des citoyens juste alertés et apeurés par ce que les scientifiques nous prédisent. Donc on a choisi d'agir. Donc si vous voulez agir avec nous... N'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre.
Et sinon, il y a la deuxième branche qui est Alternativa, qui promeut plutôt les alternatives ou avec la campagne Alternative Territoriale, là, qui fait vraiment du plaidoyer auprès des élus pour les inciter à ce que l'écologie soit plus ancrée dans leur débat. Donc voilà, il y a quand même trois moyens, trois leviers d'action à travers ce réseau. Et après, il y en a plein d'autres encore. Hein.
Et le tout de manière non violente, c'est important de nos jours de le préciser.
C'est la base.
Eh bien, merci beaucoup de votre déplacement. Michael et Perrine, vous étiez deux citoyens engagés dans Action non violente COP21, la branche du Haut-Rhin.
Merci Perrine Prével et Michael Horn pour cette invitation. Fin de ce Univox. Un remerciement à l'équipe pour cette préparation de l'émission. Victor Emmanuel Huss et Grégoire Lévy pour l'interview. Xavier Richert pour le micro-trottoir. Cette émission a été préparée par Radio MNE avec en production et réalisation Kenny Vegelin.